Alors on est toujours avec Alexis Pire qui publie « Étrangers à la carte, l'administration de l'immigration en France, 1945-1975 ». C'est publié toujours chez Grasset.
Alors pour revenir sur la période actuelle et ce qui se passe de nos jours donc au niveau de la législation sur l'immigration, il y a donc l'apparition de la législation européenne qui offre un cadre plus large que le cadre national. Donc qu'est-ce que ça change concrètement ?
Alors, ça change pas mal de choses et en même temps, pas tant que ça. Je m'explique. C'est que c'est vrai que voilà, la constitution de l'espace Schengen a évidemment considérablement modifié, en tout cas au moins, la question de la police des étrangers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pan de la politique d'immigration qui a fait l'objet d'une communautarisation, c'est surtout la politique d'asile. Puisque désormais, effectivement, l'asile fait l'objet de discussions au niveau communautaire, fait l'objet de directives, mais que sur les questions d'immigration, sur les questions d'éloignement, sur les questions d'intégration, sur les questions d'acquisition de la nationalité française, finalement, la Commission européenne a encore assez peu d'influence. Et on peut dire que ça reste une prérogative de souveraineté nationale que de gérer ces questions-là. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire non plus que la communautarisation n'a pas eu d'impact. Ce qui est très intéressant de voir, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a plusieurs mouvements, mais c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation de l'Europe par les gouvernements nationaux et en particulier par le gouvernement français, où on se rend compte que la Commission européenne c'est jamais que un conglomérat de représentants de gouvernements nationaux et que en matière de politique d'immigration, il est très intéressant de constater que ce qui s'est mis en place à la fin des années 80 et au début des années 90, c'est-à-dire les directives les plus restrictives concernant l'immigration, elles ont été introduites par des hauts fonctionnaires français. En fait, elles ont été suggérées par des hauts fonctionnaires français qui ont fait valoir leur expérience en matière de contrôle de l'immigration sur d'autres gouvernements plus néophytes comme ceux de l'Espagne ou de l'Italie. Et que ensuite, une fois que ces directives ont été appliquées, le même gouvernement français a eu beau jeu de dire qu'il fallait réformer la législation sur l'immigration puisque l'Europe nous imposait des dispositifs restrictifs, alors même que ces directives avaient été inspirées d'une certaine manière par nos experts français. Donc ça, c'est le premier point, c'est le jeu de miroir qui peut exister entre. Mais ça, je crois que on pourrait le dire de pas seulement de l'immigration mais d'autres secteurs. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est frappant, c'est que émanent de la Commission européenne ou en tout cas du niveau européen des textes qui peuvent être aussi protecteurs. Et là la question c'est je pense en particulier à un texte qui est extrêmement important pour les militants et que sans doute beaucoup de nos auditeurs connaissent, c'est la Convention européenne des droits de l'homme et en particulier certains de ses articles comme l'article 7 qui prévoit que toute personne a droit de mener une vie privée et familiale et qui peut être extrêmement utile justement pour peser dans l'application du droit. Alors il faut savoir qu'en principe, ce type de texte, la Convention européenne des droits de l'homme, est supérieur à la législation nationale. En pratique, il n'est pas toujours facile d'imposer ce type de vue à l'administration et même parfois devant le tribunal administratif. Mais c'est vrai que l'Europe. Les directives européennes, c'est des directives qui peuvent être restrictives, mais qui sont pas toujours traduites en droit interne tel quel. Ça peut être aussi, comme à l'image de la Convention européenne des droits de l'homme, des textes qui permettent de sortir de la perspective ultra restrictive qu'on connaît à l'échelle nationale. Donc c'est assez ambivalent de ce point de vue-là.
Alors moi je voudrais revenir sur l'enquête elle-même qui était votre thèse. Elle se base une des matières les plus intéressantes qu'on retrouve dans ce travail, c'est des interviews des gens qui ont fait partie de l'administration de l'immigration de 45 à 75 et qui vous racontent un petit peu à la fois leur parcours mais comment ils appréciaient chacun des éléments. Alors moi ça m'étonne un peu parce que de mon point de vue j'imagine qu'il n'y a pas de quoi être fier d'avoir fait ça comme boulot et manifestement non là il développe. C'est un terrain qui a été facile d'accès.
Alors oui et non, comme je l'ai dit au début, c'est un terrain où initialement je pensais le mener sur la période très contemporaine et je me suis heurté à des difficultés telles que j'ai dû en passer par la rupture d'une certaine manière avec une approche historique. Mais c'est vrai que une fois que j'avais pris ce parti-là, ça a été plus facile quand même que la distance avec le temps, la distance mise par le temps. Permet des libertés. Alors il y a des biais aussi, enfin ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai que le fait que ça soit des personnes qui soient retraitées, qui aient passé pour la plupart d'entre elles près de 35 ans ou 40 ans dans la même administration, à des niveaux, enfin encore une fois avec ce sentiment d'être dans une administration de relégation, avec un travail qui est pas reconnu, etc., j'ai bénéficié du fait que je venais leur faire parler de leur carrière à un moment où quand on est retraité, on a envie de revenir sur justement ce qu'on a fait dans sa vie et où finalement ça n'avait jamais intéressé personne ce qu'eux avaient fait. Et donc j'ai vraiment bénéficié de ce fait-là, ça c'est le premier point positif, j'ai envie de dire, de cette méthode-là. Le deuxième point, c'est aussi que j'ai été assez surpris aussi par le fait que il y avait quand même malgré tout, y compris pour ces gens qui étaient à la retraite depuis 10-15 ans, une méfiance et des questions qui portaient sur mon rapport à la préfecture et est-ce que j'avais eu l'aval de la direction de la préfecture, un peu comme si plusieurs années après ils restaient malgré tout fidèles à un loyalisme envers l'institution et soucieux de préserver les intérêts de l'institution. Et donc ça, c'est vrai que ça a compliqué les choses un petit peu, parce que pour aborder certaines périodes, en particulier la période dont on a parlé tout à l'heure, la période de Vichy, ça a été extrêmement, extrêmement délicat aussi pour cette raison-là, parce que j'ai très vite perçu une forme de loyalisme qui perdurait bien au-delà de la mise à la retraite, etc. Et puis le troisième point, là j'ai envie de dire c'est plus un biais méthodologique, mais qu'il faut avoir en tête, c'est que le fait d'interroger des personnes à la retraite, c'est extrêmement difficile pour elle de revenir sur des pratiques anciennes et il y a une tendance à mélanger un peu, ou en tout cas à écraser les périodes ou à mélanger les périodes. Et comme je disais tout à l'heure, la première chose qui m'a frappé, c'est que j'arrivais avec des questions d'historien. Alors par exemple, je prends l'exemple d'une question qui est la plus frappante, c'est on a tous en tête la rupture de 74, parce que on pense toujours que 74, voilà, c'est une décision de suspendre les frontières, donc ça, tout a changé du tout au tout à partir du moment où on a décidé de suspendre les frontières. Et en fait, on se rend compte que quand on interroge ces gens qui sont restés plusieurs dizaines d'années dans le 74, pour eux, ça n'évoque absolument rien, parce que il y a une forme de continuité sur l'ensemble de leur carrière qui rend justement extrêmement difficile l'analyse en détail des inflexions et des modifications institutionnelles qui sont intervenues. Et pour ça, en fait, il y avait un travail d'archives. En revanche, j'ai beaucoup utilisé ces entretiens, donc j'ai pas du tout insisté sur cet aspect-là. En revanche, j'ai beaucoup utilisé les entretiens pour essayer de dégager ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une morale professionnelle, essayer de dégager les formes de la division du travail préfectoral, parce que ça, c'est des choses qui sont structurelles et qui perdurent au fil des années. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut savoir les avantages et les inconvénients de ce type de d'entretien, où on peut en retirer certaines choses, mais il faut pas trop non plus vouloir en dire. Mais c'est vrai que j'ai été frappé par la persistance de ce devoir de réserve. Des fois, j'allais voir ces agents qui sont retraités depuis 10-15 ans au fin fond de la France, et je me rendais compte qu'ils étaient toujours tenus par cette angoisse de dire des choses qui pourraient déplaire à la hiérarchie, même si, encore une fois, pour finir de répondre à votre question, il y a une certaine fierté quand même à avoir appartenu à la préfectorale, à avoir appartenu à cette grande institution et avoir servi l'État, avoir défendu les intérêts de l'État. Il y a une certaine fierté, et je pense que c'est aussi pour ça que bien souvent ils sont absolument pas conscients d'autres enjeux qu'on peut voir dans leur discours, parce que ils sont habités par cette mission-là encore aujourd'hui.
Alors, pour en revenir à la question des militants, les militants ont souvent, très souvent et encore aujourd'hui, accusent la préfecture et les différents étages de la préfecture de se comporter, de multiplier les qualificatifs. Quelle vision, eux, Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Quelle vision, eux, ils ont de l'émergence d'un mouvement militant qui, d'un seul coup, est venu les accuser d'un certain nombre de pratiques?
Alors, il se trouve que j'ai prolongé, en fait, cette enquête. J'ai fait un peu d'observation participante. Je me suis fait embaucher, en fait, comme guichetier à la préfecture, après avoir fini ma thèse. Et j'ai essayé de poursuivre l'enquête, justement... par la méthode de l'observation participante et voilà, là j'ai été, enfin là aussi je pense que on est assez surpris, en tout cas quand donc j'ai travaillé pendant un mois comme vacataire, un mois d'été, à un guichet de la préfecture, et déjà ce qui frappe c'est l'absence de d'homogénéité dans ce milieu des guichetiers, c'est-à-dire en tout cas il y a pas de point de vue unilatéral, et on y trouve différentes catégories, différentes générations, des oppositions aussi internes. Je pense qu'il y a quelque chose quand même, il n'y a pas forcément une conscience, il y a pas de la dimension politique de l'activité. Et ça, c'est ce qui apparaissait déjà dans les entretiens. Et c'est que pour la majorité des guichetiers et des agents de la préfecture, il n'y a absolument aucune mise en valeur de cette dimension politique, parce que pour eux c'est un travail comme un autre, c'est un travail bureaucratique comme un autre, octroyer des cartes de séjour, c'est comme travailler au guichet d'une poste ou voilà, ça veut pas dire que en fait c'est la même chose qui se joue, mais en tout cas dans la manière dont eux perçoivent leur mission, puisque c'était votre question, il y a beaucoup ça. Ensuite, au-delà de cette majorité de guichetiers qui s'attachent au travail bien fait, c'est une forme de morale ouvrière aussi, hein, parce que bien souvent c'est là aussi on se rend compte que les guichetiers, en l'occurrence, c'est des gens qui viennent de province, de milieux plutôt modestes, qui sont montés à Paris, qui ont essayé plusieurs concours. Il n'y a pas de vocation à travailler à la préfecture, enfin, ou en tout cas très peu, elle est très minoritaire. Ils ont essayé plusieurs concours et puis bon bah voilà, c'est celui-là qu'ils ont réussi, donc ils ont pris ce qu'ils avaient, ce qu'ils prenaient, et puis petit à petit il y a une forme de... Alors là, après, ça veut pas... Ensuite, il y a une forme de conversion et de mise en adéquation avec le poste. Mais au départ, les trajectoires qu'on retrouve, c'est des trajectoires de personnes qui sont issues de milieux assez peu qualifiés, soit ouvriers, soit milieu agricole, et qui montent à Paris, tenter leur chance à Paris, qui essayent des concours parce qu'ils ont eu des petits boulots, des CDD, des stages, etc. Et puis, donc voilà. Donc il n'y a pas forcément cette... là aussi, peut-être il y a un mythe de l'agent de préfecture qui prend du plaisir à contrôler, à réprimer. Je crois que quand on observe les choses assez près, on nuance beaucoup cette image-là.
Alors juste pour raconter une anecdote, la coordination 93 de Seine-Saint-Denis des sans-papiers, lors d'une des multiples négociations suite à une grève de la faim avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avait obtenu que le réexamen cas par cas fait par un guichetier ou un agent de la préfecture se fasse en présence d'un militant de la coordination des sans-papiers. Et alors les sans-papiers nous disaient des trucs extraordinaires après ça. Ils disaient, mais jamais on n'a été accueillis comme ça. On nous a vouvoyés, on nous a écoutés, on a accepté de prendre l'ensemble des pièces qu'on venait apporter alors que d'habitude il y a des pièces qui n'étaient pas reçues. Et ils disaient, il faudrait que ça se passe tout le temps comme ça parce que c'est la première fois où on a l'impression d'avoir affaire à du droit dans ça.
Là aussi, je pense que ça dépend des préfectures, mais ça dépend des rapports de force. Mais c'est vrai que même si les dispositions juridiques sont de plus en plus restrictives, il y a toujours, là j'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais il y a toujours, encore aujourd'hui, une marge de manœuvre de la part des préfectures. Il faut rappeler quand même que, par exemple, la question de toutes les préfectures conservent un pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'elles utilisent d'ailleurs quand justement la pression des collectifs est trop forte ou au cas par cas quand un cas humanitaire a été mis en exergue par la presse, etc. On voit s'exercer ce pouvoir discrétionnaire de régularisation, donc c'est bien qu'il y a une marge de manœuvre. Ce que vous décrivez, enfin moi je savais pas que ça se passait comme ça dans le 93, la préfecture de Bobigny, je crois que les choses sont moins faciles, mais c'est vrai que il peut y avoir ça et là des formes de des formes de reconnaissance. Il y a des, c'est vrai que dans certains départements, il y a des collectifs qui ont obtenu de la préfecture de pouvoir, par exemple, tous les mois présenter des dossiers, discuter des dossiers avec la préfecture. Il y a d'autres départements où c'est absolument hors de question et où rien n'est négociable. Là aussi, on touche, alors peut-être une manière de prolonger ce travail, mais qui est les différences d'un département à l'autre et d'un lieu à l'autre. Au sein d'un même territoire national.
Alors, voilà, l'émission touche à sa fin. Alexis Pire, vous publiez donc « Étranger à la carte, l'administration de l'immigration en France, 1945-1975 ». C'est publié chez Grasset et ça coûte 21,90 €. Ça, c'est précis comme une circulaire de police. Juste dire un mot, peut-être Cédric, sur le livre. Moi, j'ai trouvé l'écriture particulièrement fluide et particulièrement agréable. Enfin, pour une étude comme ça qui, enfin, dont le titre laisse supposer le pire, il y a un vrai plaisir dans la lecture et c'est relativement quoi, c'est pas toujours.
Oui, nous on a pris vraiment un grand plaisir à le lire. On peut évidemment que recommander sa lecture, d'autant plus que bon, a priori, on se dit travailler sur des statistiques de dossiers individuels, ça va pas être évident, et c'est tout l'inverse. Ici, on apprend comment sont construites les catégories administratives, comment sont construits les parcours. C'est un livre qui est vraiment très attentif aux pratiques des différents. Des différents acteurs, des différents personnels, etc. On en apprend vraiment beaucoup, beaucoup, et c'est un grand plaisir de l'avoir lu et de vous avoir reçu aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup.